Retour sur la conférence du mardi 30 novembre, organisée par les Amis des Bauges, qui était animée par Éric Miano, professionnel de l'enfance, de la famille, formateur au métier de la petite enfance, du travail social et du soutien à la parentalité. Conférence intitulée « Entre diabolisation et idéalisation, l'impact des écrans sur le développement des jeunes enfants ».
Et c'est alors, bien sûr, ça a une influence toute particulière, notamment sur le langage. Le développement du langage, c'est aussi comme ça qu'on va s'approprier le monde. Et l'absence, ou en tout cas les limites d'interaction, parce que bien sûr qu'il peut y avoir des interactions à minima. En plus, maintenant, il y a des écrans interactifs, ça répond, il y a des boîtes à histoires, il y a des choses comme ça. Mais c'est toujours de façon mécanique, c'est toujours de façon automatisée, c'est toujours avec une voix qui est toujours plus ou moins la même. Alors, chaque maintenant, on peut, dans les boîtes à histoires, on peut enregistrer les histoires nous-mêmes. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais enfin, là encore, hein, on en rediscutait aussi lors d'une conférence là, autour de Laurent Baclair. Problème d'une boîte à histoires, c'est qu'elle s'endort pas en racontant l'histoire. Elle raccourcit pas l'histoire vite fait parce qu'il y a les copains à l'apéro et puis qu'on voudrait que ça passe un peu vite. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de trucs que les écrans et que les histoires ne peuvent pas faire. Et puis les enfants qui nous disent « mais tu t'es trompé », eh ben non, c'est pas comme ça qu'il dit. Et puis papa, il raconte pas l'histoire comme maman. Enfin, les dessins animés peuvent être formidables par certains aspects, mais enfin, ils sont, quoi qu'ils, même formidables par leur aspect, ils sont de toute façon bien plus pauvres que n'importe quelle autre interaction humaine ordinaire. Et donc, bien sûr que, je l'ai dit, hein, certains vendeurs nous font miroiter cette idée que ça développerait les capacités langagières. Ça n'est pas le cas. Hein. Quand j'étudiais un peu tout ça, il y a un professionnel là, qui ramenait les propos d'une maman qui était ravie de constater que son petit répétait des mots d'anglais. Elle disait « mais moi je parle même pas anglais, lui il parle anglais ». Mais il a jamais appris à parler anglais cet enfant. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans les... Là aussi, hein, il y a à peu près consensus. On est à peu près dans quelque chose qui ressemblerait à ce que font les perroquets. Est-ce qu'un perroquet sait parler ? Un perroquet sait répéter des mots qu'il a entendus. Mais est-ce que ça fabrique du langage chez lui ? Absolument pas. C'est-à-dire que la capacité tout d'abord à faire des ba-ba-ba et des papa, et puis de mettre quelques mots et de commencer à rigoler parce que je fais des mots, puis ça c'est première année en gros pour aller vite, et puis après dans la deuxième année de commencer à faire des phrases courtes, c'est 600 à 900 mots à 3 ans. Un enfant, et c'est pas les écrans, même avec des super programmes éducatifs, qui vont lui permettre ça, parce que l'interaction relationnelle est fondamentale pour fabriquer du langage. Et on est des humains, êtres de langage, des êtres sociaux. Donc tout ce bain de langage, et on pourrait même dire en amont, hein, ce bain émotionnel, hein, pour les professionnels, même les parents, c'est Bion, hein, Wilfried Bion, hein, qui a beaucoup étudié le développement des enfants, qui parle de la fonction alpha de la mère, hein, c'est-à-dire de cette capacité de la maman à transformer les éprouvées brutes d'un nourrisson qui ne sait pas grand-chose du monde et des sensations qu'il ressent, pour petit à petit lui prêter sa capacité à mettre du sens sur le monde. Hein. Il transforme, qu'est-ce qui se passe ? T'as peur, t'as eu froid, il y a un camion qui est passé dans la rue, ça t'a fait sursauter, oh bah là t'as le ventre qui gargouille. Enfin, vous voyez, petit à petit, l'enfant, il commence à partir de ses premiers vécus, il a besoin de ce bain de langage et de cette traduction du monde pour pouvoir petit à petit conscientiser quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur de lui, de qu'est-ce qui se passe dans les interactions avec les autres. Enfin, comment on fabrique petit à petit une capacité à se situer dans le monde, hein, et de 0 à 3 ans, là, je vous apprends rien, hein, mais quel développement extraordinaire! Hein, il va se mettre à marcher, même à courir. À 3 ans, il nous fait déjà sacrément cavaler, donc il a une capacité à découvrir le monde faramineuse. Il va rentrer dans un langage, faire des phrases complexes. Combien j'ai noté ? J'ai dit hein, donc 450 à 900 mots à 3 ans et 2500 à 3000 mots à 6 ans. C'est-à-dire que si tout ça, on veut l'accompagner... Alors pourquoi pas, et bien sûr avec certains écrans, certains dessins animés et de quelques trucs de ce genre-là, mais en tout cas ne pas se réduire à cette idée que ça serait des lieux pour apprendre à parler, à interagir et à se débrouiller dans le monde. il a besoin qu'on l'accompagne là-dessus pour que, hein, peu à peu, alors d'une part, il comprenne le monde, et puis que progressivement, sa pensée s'affine, et puis qu'il puisse construire un vocabulaire. Hein, on parle de la langue maternelle. Ben, la langue maternelle, elle peut être un tout petit peu alimentée quand elle est développée chez l'enfant par des jeux éducatifs, etc., mais probablement bien plus tard. Exposition précoce excessive des bébés aux écrans, et de façon générale, en gros, dans la petite enfance, sans présence humaine interactive et éducative, c'est très clairement déconseillé. Je peux pas faire mieux. Après, on va surtout discuter de comment. Oui, bah oui, c'est bien joli ça. Mais alors, on fait comment maintenant ? Parce que quand il faut gérer plein de trucs en même temps, des fois, pouvoir poser l'enfant dans un coin, et en plus, il est plutôt cool devant la télé ou devant je sais pas quelle animation vidéo là, ça peut être utile. Alors, ce qui m'ennuie quelquefois, c'est que vous trouverez toujours un psychologue embauché par tel vendeur de je ne sais quoi qui vous justifiera qu'après de tout un tas d'études, machin, son programme éducatif est tout à fait adapté. Et moi, je vous l'ai dit, j'en sais rien. De tout ça, à nous, après, de nous faire notre propre religion, de se dire, mais attends, entre l'autre qui nous dit que c'est hyper mauvais, lui qui nous dit que c'est super formidable, mais moi j'en pense quoi au fond? Et puis on va y revenir. À quel besoin et à quelle demande ça répond à ce moment-là pour l'enfant? Moi je veux bien qu'on fasse du programme éducatif à gogo, mais pour faire quoi? Enfin, ils vont pas à l'école, il faut les préparer, faire des athlètes de l'existence, moi je veux bien, mais enfin, je sais bien qu'on fait écouter de l'anglais en intra-utérin à certains enfants, parce qu'on veut les rendre, je sais pas quoi, surperformants, mais je crois que même qu'il y a du chinois, ils doivent s'y dire en disant, ouais, l'avenir c'est la Chine, donc il y en a qui doivent se dire, il faut faire écouter du chinois pendant ma grossesse, comme ça je vais optimiser ses capacités. On trouvera bien toujours 2-3 scientifiques à nous dire que ça n'est pas complètement mauvais, la musique sur le ventre, tout ça, c'est super. Mais enfin, ça nous évacue pas la question de nos interactions et de comment on doit s'y prendre, nous les parents et les adultes, pour accompagner les enfants dans tout ça. Là, quand j'ai fait une revue de littérature, notamment, enfin voilà, j'ai quelques sources de référence, très sincèrement, c'est quand même très difficile. Si vous trouvez des études, mais quand vous grattez derrière, c'est pas les études, c'est pas l'INSERM, c'est pas l'Académie de médecine, c'est toujours une étude, et derrière, vous regardez, ah ouais, c'est un groupe machin. Enfin, c'est des groupes privés, c'est des financements. Enfin, la plupart du temps, alors peut-être que moi j'oriente un peu mon propos, hein, mais il me semble quand même que les démonstrations, enfin, moi je suis désolé, je pense que le marché a une capacité à s'appuyer sur la demande, notamment la demande parentale. On est dans une société où la centration de la famille sur l'enfant est omniprésente. On a des grandes inquiétudes sur l'avenir pour nos enfants. On a des références au monde qui sont aujourd'hui peut-être un peu en berne. On sait bien que le religieux, le politique est peut-être moins référence. On est beaucoup plus les parents comptables du cadre éducatif qu'on doit mettre en place. Ce qui crée plein de questions, par exemple sur les écrans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on déconne si on fait ça? On voit bien, ça pose plein de questions. On y reviendra aussi, hein. C'est un problème social. Avant, j'ai dit tout à l'heure, il fallait tout un village. Mais l'enfant, il grandit au milieu du village, il y a plein d'adultes. Là, les parents, ils sont quasiment seuls. En tout cas, très souvent seuls à la maison, avec le boulot, les responsabilités, l'organisation d'une vie quotidienne, et les écrans peuvent être à un moment, alors on va en parler aussi, peut-être des bonnes gardiennes, des bons, hein, ça peut être pas mal, hein, de confier l'enfant, c'est une bonne nounou l'enfant, hein. Et je disais tout à l'heure, quand les copains ils sont là à l'apéro, un petit jeu vidéo là, ou un petit dessin animé qui en plus qu'on nous a vendu comme étant pseudo-éducatif, ce qui nous déculpabilise de le mettre devant un dessin animé, franchement ça peut bien fonctionner. Je dis pas que ça n'est pas possible de le faire, moi je dis juste, faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et en quelle proportion aussi, parce que de temps en temps c'est une chose, si on systématise ça et puis que ça devient un mode de garde et puis qu'on oublie que les enfants ils ont besoin d'interagir, prenez tous les enfants du monde, proposez-lui une interaction, un adulte qui a envie de jouer avec lui, qui veut se mettre avec je sais pas quoi, des Playmobil, faire des tours, jouer, il dira, et il voudra pas aller à l'écran. Et oui, 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 c'est-à-dire que ça produit cette nécessité, mais là aussi, peut-être qu'on discutera de ça, c'est-à-dire, à un moment, et moi, je veux surtout pas acheter la pierre, c'est crevant de s'occuper des enfants, les solliciter, enfin, moi, faire Yukagi Yukadek, mon petit, là, quand il avait 3 ans, et l'autre, il tue, et machin, et les monstres, et les trucs, oui, c'est sympa, hein, mais des fois, faut se mettre à porter des enfants, et ça peut être... Enfin, on reviendra là-dessus, hein, mais je suis bien d'accord, c'est sans doute toute la question. Comment les adultes, on va ou pas les chercher? Alors après, moi je suis assez d'accord avec les ados, ça signe peut-être aussi quelque chose du conflit des générations ou du fait que, bah oui, vous avez encore envie de nous mettre à notre position d'enfant et de jouer avec nous, bah nous on a peut-être plus trop envie de... En tout cas, il me semble que spontanément, et si en plus on a un véritable désir, alors après ça se complique probablement, et y compris quand ils affirment le leur, et on sait bien qu'à partir de la puberté, c'est le moment où on commence à affirmer nos désirs, y compris à s'opposer aux adultes, enfin on peut parler un peu adolescence, ça, c'est aussi à lire dans ce contexte-là. Mais vous avez raison de dire qu'il faut qu'on soit attentif à aller chercher les enfants parce que ces espaces qui sont si fascinants et qui sont fabriqués pour l'être et pour les maintenir, y compris maintenant les jeux en ligne, hein, qui sont fabriqués pour pouvoir maintenir le temps de connexion le plus long possible, eh bien, on a à résister à ça et arriver avec notre propre désir. Et allez, viens jouer, ah non, c'est bon, ah, putain, cool, je vais pouvoir aller moi faire autre chose. Ou, ah, mais si, viens, on joue, et tout ça. Et oui, les faire lâcher, enfin, pour l'avoir vécu, et on l'a tous plus ou moins expérimenté, ils résistent un coup, lâche ta tablette, allez, viens, on va faire ça. Et puis après, une fois qu'on est parti sur la partie de carte ou je sais pas quoi, c'est parti, la tablette, elle est restée derrière. Mais vous avez raison que ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Alors ça aussi, tout à l'heure je disais, on a nous des modèles générationnels, et vous voyez bien, ça, c'est, on n'a pas la case nous ça. Comment ça tu joues à ton écran, mais en même temps t'écoutes la conversation, mais je fais mes devoirs, mais en même temps je peux de temps en temps chatter sur le réseau social ou répondre à mon SMS. Bah nous on fait quoi, les papas, les mamans disent, bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, et puis on met, enfin déjà mettre de la musique en même temps que je travaille. Moi ma mère me disait, donc vous voyez bien, et nous ça vient aussi heurter nos représentations. Mais et c'est probablement pour ça qu'il faut qu'on vienne discuter de ça et qu'on mette en place tout ça. Par exemple, comment, quand on est dans des lieux familiaux, comment résister au portable pendant le repas, les écrans pendant le repas, comment ou pas on pose des bases, des repères, comment on résiste à tout ça. La question de la télé allumée, y compris alors que l'enfant joue à côté, là aussi, hein, ça c'est démontré dans une étude. Hein. L'enfant qui joue à côté d'un écran ou d'une télé allumée, voilà, ça limite ses capacités d'intériorisation de son jeu et donc de son développement cognitif, parce que ça parasite une partie de ses capacités à intérioriser. Donc, ben oui, je me l'étais noté, mais on peut se le dire maintenant. Posons-nous tout simplement, par exemple, la question, pourquoi la télé est allumée dans la maison quand c'est pas utile? Et pourquoi on laisse traîner des écrans de partout? Évidemment, après, ils nous demandent, hey, je veux jouer. Bah oui, il y a la tablette là, il y a l'ordinateur là. Donc oui, quelle est la place qu'on fait aux écrans dans nos vies?
Peut-être... Non, pour moi, c'est terrible. Des amis en ville qui ont trouvé qu'une seule nounou qui n'avait pas d'écran, oui. Pendant que les enfants étaient là à jouer, quoi. Et du coup, ils étaient hyper contents, ils sont allés avec elle. Et en fait, au bout de 2 mois, elle en a pris une, c'est une jeune. Et non, bah finalement, c'est bien, ça fait un fond sonore pour les enfants. Même s'ils ne regardent pas, quoi. ils étaient scandalisés. Et je me dis, bah, après le professionnel, c'est vraiment...
Mais c'est bien sûr que ça touche aux représentations de chacun. Mais d'une certaine manière, ça nous amène aussi à quelque chose, c'est de dire, mais de toute façon, alors là c'est chez la nounou, enfin, de toute façon, ils vont un jour, ils vont nous échapper. Hein. C'est-à-dire que ce contrôle ou ce regard, ou cette position que nous, chez nous, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télé, alors je veux bien, ça peut tenir, la crèche, ça peut tenir, à un moment, ça ne tient plus. Parce qu'on va chez la nounou, parce qu'ils vont aller chez les copains, parce qu'ils vont arriver à l'école et qu'à l'école ils vont dire ben toi t'as pas de smartphone, et puis il va falloir qu'il en dise quelque chose. Il dira j'ai des parents, c'est des vieux cons qui veulent pas, mais enfin, enfin, c'est-à-dire que bien sûr, je trouve que votre remarque est très intéressante parce qu'elle vient poser cette idée que. Je reviens à mon autonomie, hein. C'est-à-dire que bien sûr qu'à un moment, il va être confronté aux écrans, et puis que nous, on a beau poser tout un tas de règles, si on ne lui apprend pas à intérioriser les règles, et à se dire, bah oui, chez Nounou, il y a la télé, ou plus tard, chez mes copains, ils ont la télé, moi pas. Enfin, donc, vaut mieux poser un peu les choses au départ, parce que de toute façon, à un moment, ils vont nous échapper. Et effectivement, quand on est obligé d'aller le laisser chez Nounou et qu'on n'a pas le choix, ben, ça a beau nous faire chier que la Nounou, elle laisse l'écran, ben, peut-être qu'on n'a pas le choix et puis qu'il va bien falloir faire avec. Et donc, que peut-être il faut, alors pourquoi pas discuter avec la Nounou de cette question, mais en même temps, si la Nounou lui dit, écoutez-moi, c'est comme ça. Mais oui, c'est toute la difficulté. Hein. C'est aussi ça. Voilà, accompagner, toutes les familles ne fonctionnent pas pareil, chez lui, c'est comme ça, mais t'as vu, et puis qu'est-ce que t'en penses? Faire discuter de tout ça, c'est des excellents supports. Moi, je trouve qu'il faut, les remercier, les écrans, de ce point de vue-là. C'est le meilleur outil pour apprendre à nos enfants qu'il est quand même important d'apprendre dans la vie à arrêter des choses qui sont agréables. Et moi, je trouve que c'est fondamental. Enfin, et nous, les adultes, on peut réfléchir à cette question-là. Enfin, on le sait, hein, arrêter à faire des trucs qui nous plaisent, ne pas faire que des trucs qui nous vont bien, se coltiner des trucs un peu chiants parce qu'on a le boulot, parce qu'on a des emmerdes, parce qu'on a des impôts, parce que je ne sais pas quoi. Enfin, apprendre à lâcher des trucs qui nous font du bien, il me semble que c'est un des apprentissages fondamentaux de la position d'adulte responsable. Et les écrans, pour ça, sont des extraordinaires supports à, justement, si j'ai un peu anticipé le truc dans la petite enfance, là, que ça soit pas open bar des écrans tout le temps, parce qu'après je rame pour venir les enlever, mais que petit à petit, j'apprends à m'en débrouiller, à limiter, on va y revenir, à poser peut-être quelques heures d'utilisation, temps d'utilisation, règles, contrôles parentaux, j'en sais rien, bref, on pourra parler un peu de ça. Et pour préparer justement tout ça et que progressivement il puisse faire avec et de lui-même s'auto-réguler. Et c'est pour ça que moi je trouve intéressant et je trouve vraiment bien qu'on ait cette occasion là de chacun un peu de se dire mais finalement moi quelle position où j'en suis par rapport à ce truc là puis qu'est-ce que j'ai envie de poser avec mes enfants à moi parce que moi j'ai pas besoin de voilà et puis on a une réalité dans nos familles de, je sais pas quoi les uns ont beaucoup d'écrans d'autres moins d'autres des positions enfin moi les idéologies là-dessus elles sont que ça soit formidable ou que ça soit très dangereux dans les deux cas je pense que c'est des discours qui s'entendent. Après, comment chacun s'en débrouille, il y a deux, trois éléments qui font consensus sur l'idée qu'il faut faire gaffe, et puis que c'est, à mon avis, mieux d'anticiper la préparation à tout ça, parce qu'évidemment, on va avoir tout un tas de réalités. Hein. Je vous l'ai dit, si on veut s'affoler sur l'impact, et puis l'exemple des ados, on sait bien, no life, enfermement, addiction, jeux vidéo, enfin, on a de quoi faire. Hein, ça, y a pas... Donc oui, c'est toute la difficulté. C'est omniprésent dans le monde et les enfants nous sollicitent beaucoup. Et je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé une formule quand je travaillais là, ce temps que je vous redonne. C'est fatigant de fréquenter les enfants parce qu'il faut se baisser, il faut s'incliner, il faut se courber, se faire petit, se mettre à leur portée. Et ça. Ça fabrique du fait que ça participe du fait qu'on est dans une société qui, d'une part, nous sollicite beaucoup dans d'autres activités, le travail, faut aller à la ville ou dans la vallée, enfin quand on rentre le soir, un tout petit, c'est extrêmement sollicitant. et la disponibilité que demande un tout petit et l'évolution d'un tout petit. Alors, je ne sais pas si c'est les tout petits comme ça qui sont très sollicitants ou quand ils se mettent à marcher, à parler, qui nous posent une question à la minute, qui se mettent à courir de partout, qu'on ne sait pas par où les attraper. Enfin, donc, de toute façon, c'est extraordinairement difficile, et en tout cas très sollicitant. Et donc, ça amène à ce qu'on a commencé à évoquer, hein, cette idée que, bah oui, ça peut être assez facile d'utiliser les écrans comme babysitter. C'est-à-dire, pour, d'une certaine manière, garantir un peu sa tranquillité, ça occupe l'enfant, ça permet de souffler, ça permet de préparer le bain, de faire les devoirs, hein, je le disais tout à l'heure. Dans une enquête là, que j'ai trouvée, d'ailleurs j'ai trouvé intéressant la restitution, l'article de la restitution disait 21% des parents ont avoué, hein, le terme avoué, hein, que la télévision leur servait de gardienne d'enfants. Quand même, c'est-à-dire que c'est une garantie de tranquillité quand ils se reposent, pour certains, hein, parce que jeux vidéo pour aller faire la sieste, quand c'est les vacances, des fois c'est cool, hein. Enfin, moi j'ai eu un petit, parce que quand on l'a du 24/24 et qu'il faut qu'il sollicite et puis que du matin au soir il demande et papa regarde mon truc et maman regarde ceci et cela, on n'est pas toujours disponible et le temps qu'il est devant un bon programme qui en plus il nous redemande s'il peut en remettre un deuxième, ça peut quelquefois être confortable. Et là encore, moi je suis pas sûr qu'il faille que juger ça parce que c'est pour ça que je trouvais que cette citation, elle me parlait bien. C'est très exigeant, les professionnels de la petite enfance. Les éduques de jeunes enfants, souvent, elles disent « Ah, c'est chiant, parce que quand on parle de notre métier, les gens ont l'impression qu'on fait que jouer. Et que c'est pas vraiment un métier, quoi. » Mais Laurent Bacler redisait ça l'autre jour, là, que j'entendais. Moi, ça m'a... Effectivement, enfin, vous le savez bien, pour ceux qui bossent avec les petits, c'est quand même très, très exigeant, les petits. C'est loin d'être le monde merveilleux, du bébé tout rose. Enfin, voilà, alors des fois, c'est chou, hein. Enfin, il y a quand même plein de moments où, voilà, ça pleure, ça crie. En plus, entre eux, c'est quand même compliqué. Il faut les réguler. Ils ont beaucoup d'attentes, beaucoup de désirs. C'est des vrais petits sauvageons, en plus, à cet âge-là. Enfin, bah, non, mais c'est vrai, enfin, faites une république de bébé. Vous voyez ce que ça donnerait. Vous avez vu à la crèche, hein, ça mord, ça attrape, ça marche par-dessus les copains. Évidemment, quand il y a des jolis écrans, des jolis trucs, ils sont hyper attirés par tout ça. Bref, ça nous sollicite et c'est extrêmement exigeant, hein, cette affaire-là. Alors, voilà, moi je pense qu'on peut, à partir de tout ça, s'appuyer sur quelques repères. Alors, on a posé l'idée que, oui, fondamentalement, il y a en gros des vrais risques à ne pas réguler l'accès aux écrans et à exposer de façon précoce. Et après, bah, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, sur quoi on peut s'appuyer, et je vais poursuivre et puis terminer un peu là-dessus, hein, quelles sont les balises ou sur quels repères on peut essayer de s'appuyer pour tout ça? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il fallait faire gaffe, comment on s'y prend? Alors moi, je sais pas du tout comment vous allez adapter vos cadres éducatifs à tout ça, mais... Voilà, on dit qu'il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Et grand-mère, elle disait ça. Donc finalement, à nous d'apprendre aux enfants à utiliser ces outils-là de façon utile, éducative, raisonnée, raisonnable. Sur quoi on peut s'appuyer? Alors, j'ai dit, on peut distinguer, moi, il me semble, il y a trois postures éducatives qu'il va falloir, enfin, moi, je vous donne deux, trois billes, après, vous vous en débrouillez, hein, mais qui me semblent, doivent plus ou moins être un peu concomitantes, puis ça, c'est tout notre talent et notre créativité de parents, c'est de les faire apparaître en fonction des étapes de développement, des besoins, puis de la spécificité, de la singularité aussi de notre enfant, de notre environnement familial. Donc, trois postures, hein, je les cite rapidement. La première posture, c'est une posture protectrice. Évidemment, on vient de dire que c'est très compliqué si on fait pas gaffe. Donc, il y a quelque chose qui a à voir avec l'idée qu'en tant que parent, il me semble qu'on a quand même un rôle de protection face aux stimuli que proposent les écrans et face à un accès trop précoce à cette affaire-là. Donc, ça renvoie évidemment à la logique de autorisation et interdiction. Ça renvoie à, par exemple, des limites sur la durée d'utilisation. Est-ce qu'on, à partir de quand on peut laisser un enfant regarder un écran? Combien de temps on le laisse dessus, combien de temps on laisse tout seul dessus, enfin voilà, ça peut faire partie de, bah, évidemment de ce rôle-là. Ça fait probablement partie, comme autre exemple, bah, la question des filtres parentaux, par exemple. quand les enfants grandissent, quand ils vont avoir accès à un certain nombre de choses. Alors bon, quand ils sont tout petits comme ça, évidemment, c'est encore pas tout à fait la question, mais la question de, il y a une posture, dans, bien sûr dans la petite enfance, mais dans tout l'accompagnement de l'enfance, qui a à voir avec quelque chose qu'il faut qu'on protège. Et donc on limite l'accès, qu'on pose des règles, moi je sais pas lesquelles, je sais pas quelle durée il faut poser, j'en ai aucune idée, enfin si j'ai deux trois idées pour le mien, si je l'ai sous les yeux, mais après voilà, ça va dépendre, puis des fois ça s'adapte aussi, des fois, hein, vous savez, hein, c'est... On dit que les, hein, l'image que j'aime bien, c'est l'idée que les enfants, c'est comme un fleuve là qu'il faut guider. Alors des fois, il faut remonter un peu les digues là parce que le courant est un peu trop fort. Et puis des moments, il faut laisser des bacs de décan, enfin des, hein, un peu que la rive s'élargisse là, qu'il puisse un peu, voilà. Et puis si on voit que ça s'étale trop, que ça part, ça s'éparpille tout, resserrer un peu les rives. Mais ça c'est voilà. Et puis on sait quand même que quelques règles et quelques principes. Quelques rituels ou routines, hein, on sait bien que tout ça, ça aide à structurer, à sécuriser, à donner des repères. Alors quand je dis que ça s'adapte, évidemment, on change pas toutes les 20 secondes des règles, enfin normalement, mais après là encore, moi j'en sais rien, débrouillez-vous, faites des règles, fabriquez les règles que vous pensez les bonnes, et puis voyez si elles fonctionnent. Bref, donnez un peu, hein, en ayant en tête finalement le sens, c'est quand même que je veux adapter petit à petit, familiariser mon enfant avec cette affaire-là, ni trop tôt, ni trop tard. Donc voilà, une première posture qui a à voir avec la notion de protection, c'est quand même notre rôle. En plus, le législateur, il a dit que c'était notre boulot, hein, l'autorité parentale, on est garant de la sécurité, de la moralité, de l'éducation, du développement de nos enfants. Donc si on leur laisse faire n'importe quoi, c'est quand même un peu ennuyeux. Ça passe probablement progressivement ensuite par une autre posture qui a à voir avec la notion de posture sélective, c'est-à-dire que on va hiérarchiser l'utilisation et autoriser certains programmes et pas d'autres, certains outils et pas d'autres. Et on va venir après, il y a quelques repères aussi en termes d'âge et de différentes utilisations des outils. Donc ça a à voir avec l'idée de définir quelques critères, quels sont les programmes adaptés, dans quel contexte on l'utilise, par exemple. Ben non, quand on est dans un repas de famille ou quand tes tantes, elles te demandent de jouer avec toi, tu n'utilises pas ton portable. Enfin, j'en sais rien. Alors après, mais on en parlera de ça. Parce que comment on les utilise, nous, nos portables ? Donc voilà, déjà, il y a cette question de la deuxième position, donc plutôt sélective, trier petit à petit, lui apprendre à faire des choix ou à dire « non, ça, c'est pas encore l'heure » ou « moi, je suis pas d'accord pour que tu regardes ça ». Et puis ensuite, il y a la troisième posture qui est, moi j'appelle la posture autonomisante, hein, c'est celle qui progressivement, hein, son objectif, c'est de l'aider à développer son sens critique. Et en gros, à faire, alors on appelle souvent l'éducation aux médias, c'est-à-dire que petit à petit, on puisse lui apprendre un certain nombre de choses sur la réalité des médias, déjà son fonctionnement, et puis les risques aussi qu'on encourt autour de Internet et tout ça. Je parlais tout à l'heure de la diffusion des contenus. C'est bien qu'il y a deux, trois couillons d'adolescents qui écrivent des conneries sur Internet, et puis après ils se retrouvent avec le proviseur du collège qui harcèlement, ceci, tout ça, parce qu'ils se sont mis dans je ne sais quelle rumeur à la con avec autour de je ne sais quel enfant qui est, enfin voilà, c'est-à-dire que attention à ce que tu dis, attention, hein, on sait aussi les photos que tu vas déposer, les contenus que tu vas envoyer, donc tout ça, il y a quelque chose de progressivement, alors c'est sûr que le petit loulou là, on va pas lui faire tout de suite le coup de l'autonomie du point de vue des choix et tout ça, mais à moyen terme, comment il va pouvoir voilà, faire des choix autonomes et puis sélectionner et être responsable lui de sa propre future consommation. Et on sait bien, nous les adultes, que pas que simple.
Je t'écris en secret tout un tas de poèmes. Ils ne sont pas parfaits, mais je les dis quand même. Quelques mots semés par-ci et par-là. Te dire en passant que je pense à toi. J'ai posté le premier. Va-t-il toucher ton cœur? Va-t-il effacer mes erreurs? Si l'amour fait pleurer, ne pleure pas jour et nuit. J'écris un poème qui ressemble à ma vie.
Donc, premier repère, trois postures. L'autre repère, alors vous le connaissez peut-être pour certains, c'est le repère que, alors que c'est Serge Tisseron notamment qui propose ce repère-là, ça fait depuis 2008, c'est un grand pédopsychiatre français qui a beaucoup étudié cette question, et en lien avec différents... enfin voilà, différents professionnels, qui proposent le 3-6-9-12. Ça vous parle, ça? On a, j'en ai tiré 2-3, puis vous les retrouverez assez facilement. On les retrouve... C'est en gros quelque chose qui renvoie à un peu trois étapes fondamentales. Je vous ferai circuler, c'est des choses comme ça. Apprivoiser les écrans et grandir avec. Si vous voulez faire tourner, j'en ai tiré, gardez-les si vous voulez. En gros... 3, 6, 9, 12, c'est les quatre étapes essentielles du développement de l'enfant. C'est-à-dire, en gros, 3 ans, c'est l'admission à la maternelle. Donc, 3 ans, très peu, on l'a dit, très pas ou très peu d'écran. Plutôt privilégier les jeux, le développement psychomoteur, les 5 sens, tous les jeux de traditionnels du développement et autour de la notion de motricité libre. Enfin, après, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Enfin, favoriser la créativité autant que possible de l'enfant. 6 ans, qui est l'entrée au CP, qui est aussi un moment un peu particulier. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas, dans les recommandations qui sont posées, c'est qu'il n'y ait pas de console personnelle de jeu ou de type smartphone. Et vous trouvez des smartphones, des mini-smartphones pour enfants à 4 ans maintenant. Parce qu'ils ont bien compris là aussi que par mimétisme, les enfants et les adultes, tout ça. Donc en tout cas, l'idée c'est que voilà, il n'y a pas de console de jeu personnelle avant 6 ans. Ça, c'est pour moi qui le dis. Moi, je vous redonne les principes qui sont posés par les spécialistes dans ce domaine. Avec l'idée, bien sûr, que l'introduction de ces consoles de jeu, elles arrivent progressivement après 6 ans. Avec l'idée de règles claires, de temps consacré aux différents écrans, évidemment en adaptant en fonction de l'âge et puis de l'évolution, puis aussi de notre sensibilité à ces questions-là. Là aussi, dans la partie 6 ans, évidemment, c'est là où on pose que il est quand même de bon ton qu'il n'y ait pas de tablette, d'écran, et dans les chambres des enfants, par exemple. Et c'est sûr que s'il y a le smartphone, la tablette, et puis l'écran, et puis la console de jeu qui est à disposition dans la chambre, c'est quand même un vrai appel. Donc ça fait partie des recommandations qu'on peut trouver. Il y a l'idée de pas d'internet non accompagné avant 9 ans. 9 ans étant en gros l'étape de la maîtrise de la lecture et de l'écriture. C'est-à-dire qu'à 9 ans, l'enfant, il est capable d'aller lire les contenus, d'aller à minima. Bon, en CP, il en est au béaba, c'est encore pas trop là. Mais là, et puis on sait bien, en plus, alors maintenant, avec les contenus, déjà, quand vous faites une recherche de base, vous tombez sur des publicités, il y a toujours une nana à poil, il y a toujours des machins, des trucs. Enfin, c'est quand même vite affolant. Ce sur quoi, même par mégarde, quand on laisse traîner nos enfants avec l'accès Internet sans faire gaffe, ce sur quoi ils peuvent tomber et qui peuvent, bien malgré nous, les confronter à des contenus que, en plus, on est bien embêté après pour en dire quelque chose, parce qu'ils arrivent avec leur truc et puis ils sont au milieu du repas de famille, la dame machin, enfin, on a 2-3 anecdotes comme ça, les professionnels de l'enfance, où des fois ça fait des histoires un peu compliquées où les enfants sont, on parle même pas de l'utilisation de certains adultes qui font pas comme il faut les historiques, et du coup leurs enfants tombent sur les historiques que les papas ou les mamans vont chercher, après je veux pas non plus dramatiser, mais enfin voilà. Maîtrise de la lecture et de l'écriture, donc l'accès à Internet. On retombe sur la question des filtres parentaux, des choses comme ça, en tout cas d'une vigilance extrême sur comment vous allez sur Internet et qu'est-ce que vous allez y faire sur Internet pour voir quoi et qu'on parle de ce qu'on y voit. Et puis ensuite, c'est 12 ans, c'est l'entrée au collège où là, il n'y a pas de réseaux de sociaux avant 12 ans. C'est-à-dire que c'est seulement à partir de 12 ans et l'entrée au collège qu'on peut commencer, sachant que ça va être une période délicate aussi, à permettre à l'enfant d'aller sur les réseaux sociaux, d'avoir du Instagram, Facebook, le wall, où je me mets des photos, où j'interagis avec les autres. En tout cas, voilà les repères qui sont donnés. Moi, je ne sais pas s'ils sont bons. Je ne sais pas comment chacun va les adapter à son style et aux besoins de son enfant, mais dans les grandes lignes, il y a un certain nombre de réalités avec lesquelles il faut quand même qu'on fasse attention. Autour d'Internet, on sait que il y a trois règles aussi qu'on retrouve beaucoup sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est le rappel que tout ce qu'on met peut tomber dans le domaine public, hein, tout ce qu'on met sur Internet. C'est aussi pour ça qu'on a cette direction-là et qu'il faut leur apprendre et qu'il faut qu'on supporte qu'ils gueulent parce qu'on leur dit non. Parce que on sait bien qu'ils n'ont pas la maturité, ils sont choux nos petits, mais quelquefois ils peuvent faire des choses pas possibles. En plus maintenant il y a plein de jeux, plein d'applications, en plus il suffit qu'on enregistre nous notre carte bleue, ils cliquent, valider, on se retrouve avec des comptes, des trucs Fortnite où ils ont acheté des machins pas possibles, enfin voilà, il y a plein de jeux en plateforme où ils peuvent aller chercher des compensations, enfin des... Pourquoi je connais pas trop ces trucs-là, mais où ils peuvent aller acheter en gros des capacités, des choses. Et les petits, enfin certains, ils sont très habiles. Hein. Donc il y a une vraie vigilance là-dessus. Donc ça tombe dans le domaine public et puis il y a le problème de la permanence de ce qui est. Non seulement ça tombe dans le public, mais en plus ça y reste éternellement. Donc là, je le disais tout à l'heure, ça peut nous suivre toute notre vie. Et puis il y a une autre règle auquel il me semble qu'il y a une vraie direction sur laquelle on doit s'appuyer pour les familiariser, les accompagner, c'est cette idée qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur les écrans, et notamment par Internet. Et vous savez tous, hein, fake news, on est dans le monde du bullshit et du grand n'importe quoi, il y en a même qui inventent que la Terre elle est plate et puis qu'il n'y aurait pas de réchauffement climatique, enfin là je donne une opinion personnelle, mais enfin voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde où la réalité de l'information peut être travestie, vous savez maintenant avec les motion capture, on arrive en gros à faire dire n'importe quoi, n'importe qui, en modifiant, prenant l'image d'un homme politique, etc. Donc en gros, il faut aussi qu'on les aguerrisse à l'exercice du sens critique, tout ce qui vient sur les écrans, c'est pas parce que c'est vu à la télé que c'est vrai quoi. Et ça aussi, c'est une vraie règle avec laquelle il faut qu'on... Alors évidemment, là encore, les tout-petits, pour l'instant, c'est pas tout à fait le moment de les affoler là-dessus, mais enfin, il faut bien qu'on installe tout ça progressivement pour que, peu à peu, ils puissent, et plus tard, être en capacité, justement, qu'on puisse discuter de tout ça, quoi. Donc il faut qu'on choisisse les programmes qu'ils regardent, et pendant un moment, en tout cas, il faut qu'on les invite aussi beaucoup à parler de ce qu'ils voient, et qu'on les laisse pas seuls avec ces écrans, et que dans les premières expérimentations, bien, on ait aussi ce souci-là. Bref, il faut qu'on travaille à un usage éclairé. Enfin, là, moi, je vous fais que donner des éléments. Enfin, je pense pas que je vous révèle grand-chose, hein. Enfin, très sincèrement. Et c'est pour ça que j'aimerais plutôt qu'on discute de voilà, comment on fait avec tout ça, maintenant, et puis quels sont les freins et les difficultés qu'on rencontre, hein. Évidemment, bah oui, on a dit, il faut pas d'écran avant 3 ans, c'est mauvais pour eux. Moi, j'ai dit, il faut essayer d'accepter les crises, et c'est notre responsabilité aussi, de les aider à supporter le fait qu'à un moment, bah, il y a des moments agréables et des moments qui sont pas agréables dans la vie, et puis que c'est un bon support pour le faire. On pourrait discuter aussi, mais là, je vais vous laisser venir, hein, on en a un tout petit peu parlé, c'est du mimétisme. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai problème. Les psychologues, ils appellent ça, nous sommes des figures d'identification. C'est-à-dire que nos enfants, ils se construisent par identification, bien sûr, tout d'abord par les figures premières qu'ils rencontrent, souvent le père et la mère, et partout, l'environnement, évidemment l'entourage, les fratries, les tontons, les tatas, qui ont des tatas qui demandent quand même encore à jouer, et moi je trouve que c'est une très bonne figure d'identification, même s'ils disent, voilà, mais eux, quand ils auront votre âge, ils demanderont à leur neveu et nièce de venir jouer en disant, mais c'est pas possible, parce que peut-être ils auront reçu aussi ce désir-là, même si aujourd'hui ils n'y ont pas répondu, enfin, moi j'en sais rien, mais... Donc voilà, il faut aussi qu'on vienne un petit peu travailler ça avec eux. Chacun va trouver ses modalités. On a des balises, j'en ai donné quelques-unes, mais je vous ai dit, je voulais pas trop qu'on rentre dans les recommandations et les leçons toutes faites. Les pédopsychiatres, ils sont d'accord sur l'idée qu'il faut qu'on fasse gaffe. C'est pas bon pour le développement psychomoteur, pour le développement cognitif. C'est pas génial si on l'aide pas à, dans les interactions, à co-construire son monde et à s'approprier le monde. Les écrans ne sont pas empathiques. Les écrans n'éprouvent pas et ne retraduisent pas et n'expriment pas d'émotions. Et les enfants se construisent dans un registre émotionnel, dans des interactions et dans comment les cinq sens qui sont les miens vont me permettre de découvrir le monde. Et après, je vais rentrer dans le langage et je vais croquer dans le monde par le langage. Ils vont nous faire une tête comme ça quand ils vont commencer à parler. Bref, ils ont besoin de beaucoup de choses. Surtout d'interaction humaine, probablement, pourquoi pas, parce que ça fait partie du jeu des écrans, mais voilà, quelque chose qui les accompagne. Et je vais terminer là-dessus. Moi, ce qui me semble important, c'est de se poser la question de la demande d'écran. Qu'est-ce qu'il y a derrière une demande d'écran? À quelle demande, à quel besoin elle correspond? Vous savez, j'ai repensé à ça. C'est un peu comme quand un enfant, il voit un paquet de gâteaux, là, ou un paquet de bonbons, puis il dit « Papa, j'ai faim ». Tu dis « Non, non, t'as faim ou t'as envie de manger un bonbon ?» Et vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et il me semble que notre boulot, c'est plutôt de lui dire « Mais finalement, ton désir, il est fait de quoi, mon fils, dans ce cas-là » Il est fait du fait que t'as vu un paquet de bonbons et que ça te fait hyper envie, mais viens pas me dire que tu as faim. Parce que la faim, c'est autre chose, c'est voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire finalement, à quoi correspond cette demande d'écran? Pourquoi peut-être à ce moment-là vos ados, je suis désolé, hein, je vous reprends comme exemple, mais pourquoi à ce moment-là ils n'ont pas ce désir-là? Ou qu'est-ce qui se referme derrière eux? Pourquoi ils évitent les voilà? Parce que tout simplement ils sont dans leur truc. En tout cas, c'est quoi cette demande? Ça peut nous aider à traduire un peu. Et puis à traduire déjà ce qu'ils ont besoin. Et puis ça peut nous aider ensuite à ajuster notre réponse. Parce que moi, quand mon fils il me dit « Papa, je veux un bonbon parce qu'il a vu le papier de bonbon », je dis « Non, c'est pas que t'as faim, c'est que tu veux un bonbon enfin, ». Donc voilà, il faut l'aider à décrypter sa demande, parce que ça va lui permettre, là aussi, pour l'aider à grandir, de comprendre aussi de quoi sont fabriqués ses désirs, y compris par exemple son désir d'être un peu tranquille, ou de faire quelque chose, de s'enfermer, lui dire « Mais moi, voilà, pourquoi tu fais ça et pas ça ?» Bref, questionnons-leur sur leur demande. Questionnons-nous sur nos propres usages aussi et sur qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on fait de nos temps libres, nous, quand on a 5 minutes? Est-ce qu'on ouvre notre smartphone? Est-ce qu'on allume la télé? Est-ce qu'on prend un bouquin? Est-ce qu'on va les chercher? Et ça, c'est une vraie question à se poser. Donc voilà, quelle est la demande derrière tout ça? Quelle était votre demande à vous, finalement, derrière tout ça? Moi, je sais pas si j'y ai répondu. Mais voilà, peut-être que entre diabolisation et idéalisation, on peut peut-être échanger sur tout ça. Et qu'est-ce qui fait frein? Qu'est-ce qui fait difficulté? C'est un peu tout le problème, on a bien raison d'en discuter en tout cas.
Vous venez d'entendre Eric Miano lors de la conférence du 30 novembre dernier organisée par les Amis des Bauges et la Farandole, conférence intitulée « Entre diabolisation et idéalisation, l'impact des écrans sur le développement des jeunes enfants ».